IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, la radio en FM sur 98, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invitées du jour sont toutes avocates en droit de la famille et je les remercie vivement d'être venues partager cette matinée avec nous. Bonjour, maître Linda Deradji.
Bonjour.
Vous êtes avocate du cabinet Judicis, qui est un cabinet interbarreau.
Tout à fait.
Paris-Val d'Oise. Vous exercez notamment en droit des personnes et de la famille.
Oui.
Et vous répondrez aux questions des auditeurs sur les étapes de la procédure de divorce et sur les droits de visite et d'hébergement des grands-parents. À vos côtés, maître Laetitia Gernaise.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir.
Merci de me recevoir.
Je crois que ouais, nous avons prêté serment le même jour, non?
Oui.
Voilà, c'était hier, non?
C'était hier. Ouais, voilà.
Vous êtes associée du cabinet Altesia qui est situé à Enghien-les-Bains et votre principal domaine d'activité est le droit de la famille.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, vous nous éclairez sur le droit des successions et sur la mesure de tutelle.
Exactement.
Merci. Enfin, merci à maître Aurélie Tolade. Bonjour.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté de participer à cette première émission. Vous êtes spécialisée en droit de la famille et vous répondrez à des questions sur le changement de nom de famille et la garde des enfants mineurs en cas de séparation des parents. Bienvenue et merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce premier numéro de Tous les droits. Une émission bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli. Et tout de suite, je me tourne vers vous, maître Linda Deradji.
Oui.
Bon, en préambule, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre parcours? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs, auditrices, étudiants en droit qui souhaitent devenir avocat. Alors comment on devient avocat?
Oui, tout à fait. Bah, tout simplement, après le bac, j'ai fait un master de droit à la faculté de Paris 13. Et j'ai passé ensuite l'examen d'avocat qui m'a permis d'intégrer l'école d'avocat, l'EFB. École qui dure 2 ans, donc 2 ans de formation, pendant lesquels on alterne donc stage pratique et cours théorique, donc 7 ans d'études en tout. Et j'ai prêté serment donc en septembre 2012.
Ça passe, hein.
Voilà.
Donc vous exercez au sein du cabinet, on l'a dit, Judicis, dont vous êtes associée, mais vous étiez collaboratrice avant pour qu'on...
C'est ça. Voilà, j'ai commencé en tant que collaboratrice. C'est important, à mon sens, ça m'a permis d'être formée d'abord en sortant de l'école. Donc j'ai fait quelques années de collaboration avant, effectivement, qu'on me propose une association depuis bientôt 6 ans maintenant.
Le temps passe définitivement
voilà.
Très vite. Donc, une avocate chevronnée d'expérience qui va répondre à des questions des auditeurs concernant la procédure de divorce et les droits de visite et d'hébergement des grands-parents. Alors, nous avons effectivement reçu un certain nombre de questions et la première de notre auditeur concerne la procédure de divorce. Il nous écrit « Je suis mariée depuis 20 ans, nous avons 2 enfants encore mineurs, nous sommes propriétaires d'un pavillon à Grolet et nous souhaitons divorcer. Comment dois-je procéder, maître Linda Deradji ?»
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de procédures de divorce. Donc, il y a la procédure de divorce amiable, quand tout se passe bien, que les époux sont d'accord finalement pour divorcer sur le principe et les conséquences du divorce. Et il y a la procédure contentieuse judiciaire, quand malheureusement, il n'y a pas d'accord entre les époux. Alors, rapidement, sur la procédure de divorce amiable, donc elle a changé depuis janvier 2017, elle est un peu plus simplifiée qu'avant. Cette procédure ne requiert pas donc l'intervention du juge d'affaires familiales, mais comme je l'ai indiqué, le prérequis indispensable, c'est l'entente et l'accord donc des 2 époux sur le principe et les conséquences. Et donc les termes de cette séparation figurent donc dans une convention de divorce rédigée par les 2 avocats des époux, puisque chaque époux doit prendre un avocat, convention qui est ensuite enregistrée par un notaire. Parallèlement à ça, là, dans ce cas de figure là, sur la question de l'auditeur, comme il y a un bien immobilier, on a donc l'intervention du notaire qui va s'occuper spécifiquement du sort du bien immobilier. Il va rédiger l'acte liquidatif pour prévoir ce qu'on fait au niveau du bien, est-ce qu'il est vendu ou est-ce qu'un époux rachète la part de l'autre, et un acte donc liquidatif est également rédigé parallèlement à la convention de divorce. Une fois donc que ces actes sont signés, ils sont donc envoyés en recommandé avec accusé réception aux deux époux, et un délai de réflexion de 15 jours leur est laissé pour être sûr effectivement qu'ils sont d'accord sur les termes du divorce amiable. Et à l'issue donc de ce délai, la convention de divorce est signée en présentiel, c'est important, d'accord, indispensable, au cabinet de l'un des avocats ou chez le notaire. Donc ça, c'est le cas du divorce amiable quand ça se passe, on va dire, plus ou moins bien, lorsque les époux sont pas d'accord, donc sur le principe ou sur les conséquences. Là, pour le coup, on est obligé d'avoir recours au tribunal et au juge aux affaires familiales. Donc, c'est le juge aux affaires familiales, finalement, qui va trancher les demandes formulées par l'un des époux ou l'autre, ou les deux. Une audience, donc une première audience, aura lieu après une assignation délivrée par un des époux. Donc, dans cette assignation figurent effectivement les propositions donc de partage et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et les modalités justement relatives aux conséquences du divorce, la prestation compensatoire, les modalités de résidence des enfants, la pension alimentaire, etc. Et à l'issue donc de cette première audience, des mesures donc provisoires vont être donc rendues par le juge, ce qui va permettre en fait aux époux d'avoir leur relation régie dans l'attente du prononcé du divorce définitive. Et ensuite on rentre donc dans une autre dans une seconde phase qui est un petit peu plus longue, donc la phase de mise en état, phase pendant laquelle effectivement les parties vont échanger leur argumentaire écrit, donc conclusion et pièce, avant l'audience donc de plaidoirie, l'audience finale, audience qui sera suivie donc d'un jugement de divorce dans lequel effectivement le juge fixera le motif du divorce et les modalités, donc les conséquences du divorce. Voilà.
Merci pour toutes ces précisions. Juste quelques questions, parce que je suis avocate, mais je ne fais pas du tout de droit de la famille, et j'imagine que l'auditrice pourrait vous poser ces questions aussi. Donc, pour divorcer, on est obligé d'avoir un avocat.
Exactement.
Très bien. Et quid de la médiation dans la procédure de divorce ? Est-ce que on a recours à des médiateurs ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est un préalable obligatoire ?
Alors, lorsqu'il s'agit d'une première saisine du juge d'affaires familiales, la médiation n'est pas obligatoire. On n'a pas l'obligation. Après, c'est recommandé, puisqu'effectivement, ça peut parfois permettre d'aboutir à des divorces amiables et simplifier en fait les choses et apaiser les relations entre les époux.
Très bien. Merci pour toutes ces précisions. On marque une pause et on revient avec vous pour répondre à de nouvelles questions en droit de la famille.
Encore une nuit de bruit et d'ivresse. Et comme d'habitude, je rentre au matin. Et tous mes problèmes chez moi, je les laisse. Car quand vient la foule, alors tout va bien. Tout le monde le sait, si tu vas à Paris, tu auras le monde. Si les rues pouvaient, elles te raconteraient comment vagabonde. Et qu'on finisse seul ou accompagné, santé à la tienne. On jure d'être sage et comme chaque soir, on fera des siennes. À la parisienne. À la tienne.
On jure d'être sage et comme à chaque soir on fera des siennes à la parisienne.
Vous êtes bien dans Tous les droits, une émission consacrée ce matin aux droits de la famille, avec à mes côtés maître Linda Deradji, maître Laetitia Gernaise et maître Aurélie Tolade, toute avocate au barreau du Val d'Oise. Maître Linda Deradji, on poursuit avec vous avec une nouvelle question qui nous a été adressée par une auditrice cette fois sur les droits de visite et d'hébergement des grands-parents. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des droits de visite et d'hébergement des parents dans le cadre du divorce, on oublie parfois les grands-parents parce qu'il peut arriver que les parents soient fâchés avec leurs enfants qui ont eux-mêmes des enfants et donc les grands-parents, papy, mamie, ne voient plus les petits-enfants et ils ont des droits aussi, les grands-parents. Alors cette auditrice nous a écrit concernant la garde de ses petits-enfants. Ma fille a deux petits garçons de 6 ans et 13 ans. Elle a déménagé dans le sud de la France et nous n'avons plus de contact avec nos petits-enfants alors que nous les gardions auparavant une semaine à chaque vacances scolaires. Peut-on saisir un juge pour obtenir un droit de visite et d'hébergement concernant nos petits-enfants ?
Alors effectivement, je confirme Sonia que les grands-parents disposent d'un droit de visite et d'hébergement de leurs petits-enfants, hein, c'est inscrit dans le code civil, et ils peuvent même se voir confier la garde si le juge estime que cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc les grands-parents peuvent disposer d'un droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'un droit de correspondance par lettre, email ou tout autre moyen de communication. C'est important de le préciser parce que c'est rarement évoqué. Et ils ont également une responsabilité d'entretien, faut le savoir aussi, si les parents sont défaillants, les grands-parents doivent contribuer à l'entretien et l'éducation des petits-enfants. Donc là, en l'occurrence, quid en cas de conflit ? Effectivement, bah, il arrive que les parents refusent donc le droit de visite aux grands-parents. Tout d'abord, je conseille effectivement aux grands-parents de tenter l'amiable. Toujours concrètement, on commence par écrire aux parents, essayer de trouver une solution qui arrange tout le monde et même avoir effectivement recours à la médiation. Ça peut être là en l'occurrence intéressant pour régler ce conflit. Et si réellement donc il n'y a pas de solution trouvée, eh bien là les grands-parents vont devoir avoir recours à un juge d'affaires familiales avec la représentation d'un avocat et c'est le juge qui effectivement tranchera le litige et il vérifiera s'il existe un motif de refus réel du droit de visite des grands-parents et est-ce que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant ou pas. S'il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement sera accordé aux grands-parents en fonction du cas d'espèce adapté à l'affaire.
D'accord, très bien. Et du coup, j'empiète sur d'autres questions là qui me viennent. Mais alors là, cette grand-mère nous dit que ses enfants sont maintenant dans le sud de la France. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel juge on saisit dans ce cas-là si les grands-parents vivent encore dans le 95 et que les enfants sont dans le sud de la France ?
Alors, c'est le lieu de résidence des enfants.
C'est le lieu de résidence des enfants. D'accord. Donc, ça veut dire que cette grand-mère ou ce grand-père, une auditrice, donc c'est la grand-mère, devra s'adresser à un avocat compétent.
Voilà, là où le lieu de résidence des petits-enfants. Donc, si c'est dans le sud de la France, ça sera le tribunal du sud de la France, de la ville du sud de la France, avec de préférence un avocat qui se situe dans le sud de la France.
Oui, alors, parce que précision importante pour nos auditeurs. On a dit que la loi n'était pas simple et ce n'est pas simple du tout, effectivement, parce que pour s'adresser à un avocat, il faut d'abord se poser la question du tribunal compétent. Est-ce que tous les avocats ne peuvent pas tous les avocats du barreau du Val d'Oise ne peuvent pas intervenir dans tous les tribunaux de France? Donc, par exemple, en droit de la famille, il y a une particularité. C'est le lieu, donc, du domicile des enfants au domicile conjugal et donc il faut que l'avocat qu'on...
Alors on peut toujours intervenir mais disons que en fait ça il faudra prendre un correspondant sur place. Donc bon ça fera des frais supplémentaires, on peut le faire mais on est obligé de passer par un correspondant avocat sur place pour qu'il se constitue et qu'il fasse la liaison en fait entre le sud de la France et le Val d'Oise en l'occurrence.
Oui effectivement c'est un beau périple pour l'avocat du Val d'Oise qui pourrait aller dans le sud mais voilà, c'est pour que les auditeurs comprennent bien que on ne peut pas, nous, un avocat du barreau du Val d'Oise, intervenir sur tout le territoire dans certaines matières, notamment les procédures écrites. On doit prendre un correspondant sur place qui va notifier, signifier nos écritures au tribunal.
Tout à fait.
Merci pour ces précisions. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits et mes invités du jour sont avocates en droit de la famille. Et nous continuons notre tour de table avec Maître Laetitia Gernaez. Maître Laetitia Gernaez, pouvez-vous nous présenter votre parcours, votre cursus? Elle me sourit. Elle est contente de raconter son parcours.
Oui, je suis ravie. Non, j'ai prêté serment en 2009 après avoir fait mes études à la fac de Cergy-Pontoise et à l'école d'avocats de Versailles. Donc j'ai fait 5 ans de fac en droit privé essentiellement, incluant droit de la famille, droit pénal. J'ai présenté l'école d'avocats à Versailles, pas à Paris. On s'est retrouvés ensuite sur les stages. Et effectivement, l'école à ce moment-là, c'était 18 mois d'école d'avocat en trois périodes. Stage au tribunal pendant 6 mois, stage en cabinet d'avocat pendant 6 mois et cours à ce qui s'appelle maintenant l'EDAC à Versailles pour apprendre les bases, en tout cas, de la profession. J'ai intégré ensuite un premier cabinet à Gonesse en droit des assurances pendant un an. Ensuite, j'ai travaillé en tant que collaboratrice d'un avocat à Pontoise, essentiellement en droit de la famille. Et j'ai ensuite monté mon propre cabinet à Enghien, dans lequel j'exerce encore aujourd'hui avec mon associé. Moi en droit de la famille, lui en droit immobilier.
Donc vous êtes voisine de IDFM Radio.
Exactement.
Et une Valdoisienne.
Valdoisienne.
Tous vos stages et vos précédentes collaborations au sein du barreau du Val d'Oise.
Oui.
Très bien. Alors, nos auditeurs ont des questions pour vous, Maître Gernaez, pour lesquelles votre expertise est précieuse, notamment en droit des successions. Alors, nous avons reçu des questions sur le droit des successions en rapport avec cette émission sur le droit de la famille. C'est un droit qui est très technique, qui est parfois boudé par certains avocats, mais pas par vous. Et c'est pour ça que cette première question vous est destinée. Mmh. Alors, l'auditeur nous écrit ceci. Mes parents sont décédés, j'ai un frère et une sœur. Nous ne nous entendons pas sur le sort de la maison de nos parents située dans le Val d'Oise. Que puis-je faire ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que en droit des successions, il est quand même priorisé que ce soit fait de manière amiable, qu'il y ait beaucoup d'échanges et de possibilités d'accord amiable sans avoir à passer par un juge. C'est même imposé avant de pouvoir lancer une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit. Alors, il y a vraiment deux étapes. La première étape, c'est que le temps de l'indivision, parce qu'au moment du décès de ses parents, on va être en indivision, c'est-à-dire qu'on va chacun avoir des droits en tant qu'héritier sur un même bien qui appartenait aux parents. Et sur l'indivision, vous allez le temps de la vente du bien, il y a toute la question de la gestion. Parce que il faut l'entretenir, il faut prendre les mesures. Soit on arrive à se mettre d'accord et à ce moment-là, il peut y avoir l'intervention d'un notaire. Il n'y a pas que les avocats, il y a les notaires qui interviennent dans les successions dès que la succession s'ouvre. Soit il y a des échanges qui sont possibles et qui permettent que le bien soit entretenu, enfin qu'il y ait des accords qui soient trouvés entre les frères et sœurs le temps notamment de la vente. Soit il n'y a pas d'accord possible et dans ce cas-là, on peut demander à ce que soit désigné par le tribunal un mandataire qui aura en charge la gestion du bien, qui du coup organisera l'administration provisoire de la succession et qui pourra prendre toutes les mesures nécessaires à l'entretien et à la conservation du bien. Quand il s'agit ensuite de savoir ce qu'on fait du bien, est-ce qu'on le vend, est-ce que quand il y a qu'un seul bien, la plupart du temps la logique veut qu'il soit vendu, puisque le partage peut se faire quand il y a plusieurs lots, il y a plusieurs biens à partager, mais quand il y en a qu'un, la question va se poser de savoir si l'un des héritiers le garde et rachète aux autres c'est pas leur part, ou si le bien est vendu. Soit il y a un accord qui arrive à se trouver, là encore c'est quand même la voie amiable qui est mise en avant pour sortir du conflit. Soit on trouve un accord, on vend le bien, soit l'un des héritiers veut sortir de l'indivision plutôt que les autres en disant s'il y a une mésentente deux contre un par exemple, l'un va demander à vendre ses parts. Il peut vendre ses parts en les proposant d'abord à ses cohéritiers, et si les cohéritiers ne sont pas intéressés, il pourra les céder dans ce cas-là à un tiers. Et quand ça ne fonctionne pas et qu'il faut mettre le bien en vente, mais que l'un s'oppose, il y a la possibilité en dernier lieu de saisir un juge pour solliciter la vente judiciaire du bien, qui est très longue. C'est des procédures qui sont très longues, qui sont complexes et qui sont, et c'est pour ça je pense qu'elles sont déconseillées, enfin qu'il est conseillé de faire plutôt des sorties amiables d'indivision. Quand il y a la possibilité de ne pas vendre et que chacun veut récupérer l'un des biens et pas l'autre, dans ce cas-là, il peut être fait un partage, soit à l'amiable devant notaire, soit un juge sera saisi et il décidera lui qui prend quel bien quand il y en a plusieurs.
Très bien. Donc, ce que je comprends, alors, on a beaucoup.
C'est dense, hein, c'est dur.
C'est dense, c'est technique, mais on a beaucoup parlé de médiation et je vous entends encore en parler, parce que, enfin, le droit des successions, notamment, c'est un très technique juridiquement, mais c'est surtout un imbroglio aussi d'affect. Et souvent, on se rend compte que les discussions sur les biens, le prix de vente, c'est beaucoup d'affect aussi. C'est la relation avec les parents, entre les frères et sœurs qui se jouent. Donc, la médiation, vous dites qu'elle est obligatoire dans les.
Alors, en fait, c'est pas une médiation dans un centre de médiation qui est obligatoire, c'est qu'il faut prouver au magistrat qu'il a d'abord été tenté un partage amiable, donc un notaire qui aura convoqué les parties, essayé d'échanger avec elles, essayé de déterminer s'il est possible de ne pas avoir besoin de recourir à la voie judiciaire. Et le notaire et les avocats qui accompagnent peuvent conseiller effectivement de mettre en place une médiation, parce que enfin, c'est très vrai, il se joue très souvent dans les successions, dans ces moments-là, des règlements de compte qui sont liés à l'affect et à l'historique plus que des questions financières à proprement parler.
Et donc vous travaillez, vous, par exemple, avec des médiateurs en droit de la famille, est-ce que c'est une pratique que vous avez au quotidien?
Alors oui, il y a déjà sur le Val-d'Oise, enfin sur la cour, il y a des notaires médiateurs.
Très bien.
Qui reçoivent les gens et qui effectivement ont à la fois les compétences techniques, parce que le partage c'est quand même vraiment les avocats accompagnent, mais c'est le rôle du notaire de mettre en place, de calculer les droits, les sommes que doivent récupérer chacun. Ça peut pas se faire qu'avec un avocat, il faut également un notaire, et les notaires médiateurs en présence des avocats peuvent effectivement permettre d'échanger, de trouver des solutions. Donc oui, c'est une très bonne solution de pouvoir recourir à des médiateurs et à échanger d'abord pour sortir des difficultés avant d'en arriver aux procédures judiciaires qui sont vraiment longues et très souvent compliquées.
Bon, alors je prêche contre ma propre paroisse, mais on dit quand même souvent que il vaut mieux un bon accord qu'un très mauvais procès, mais
c'est et puis aussi... surtout l'avocat a sa place, c'est-à-dire que dans le processus de médiation et dans les accords à trouver, l'avocat il joue un rôle très important. Parce que on est les premiers à pouvoir dire que les procédures vont être très complexes. Et puis ça permet, effectivement, on accompagne notre client qu'on défend et dont on voit les intérêts propres. Donc l'avocat a toute sa place. Et enfin, tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un contentieux où la médiation et les échanges en amont d'une procédure permettent de dénouer et vont permettre vraiment que... de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde et qui respectent les intérêts de chacun quand même.
Bon, merci pour toutes ces précisions. Alors ça fera d'ailleurs peut-être l'objet d'une autre émission, mais beaucoup d'avocats aussi maintenant sont formés à la médiation. Il y a beaucoup d'avocats médiateurs. C'est un mouvement très encouragé par les gardes des Sceaux. Mais effectivement, les avocats maintenant se forment beaucoup à la médiation et on aura l'occasion d'y revenir. Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avant de continuer cette émission toujours consacrée aux droits de la famille. Vous nous rejoignez peut-être sur IDFM Radio, c'est Tous les droits et nous continuons de répondre à vos questions avec Maître Laetitia Gernaise. Alors, Maître Laetitia Gernaise, nouvelle question pour vous, cette fois sur une mesure de protection des majeurs. La question de l'auditrice est la suivante. J'ai une cousine, donc ça rejoint le droit de la famille, hein, c'est une préoccupation d'une cousine pour sa cousine. J'ai une cousine donc, dont je suis très proche, qui est atteinte d'une pathologie mentale. Elle est incapable de gérer ses affaires courantes. Quelle mesure de protection existe pour elle ?
Alors, il y a plusieurs mesures de protection qui peuvent être mises en place par l'intermédiaire d'un tribunal qui sera saisi. Vous avez la possibilité de mettre en place une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice. La tutelle étant la mesure de juridiction qui prive le plus la personne protégée de ses droits, parce que ça limite quasiment complètement les actes qu'elle pourra réaliser. Vous avez la curatelle et la sauvegarde de justice qui sont un petit peu plus légères, mais qui effectivement permettent quand même de protéger la personne. Il faut saisir le tribunal, le juge des contentieux de la protection, enfin le juge des tutelles devant le tribunal de proximité. L'auditrice dans votre question est la cousine, ce qui est possible parce que les droits ne sont pas ouverts à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a que certaines personnes qui peuvent saisir un tribunal pour solliciter une mesure de protection. Vous voulez que je vous dise qui ou ça rentre trop dans le détail ?
Non, mais allez-y, c'est éclairant pour d'autres, sûrement, qui nous écoutent.
Il y a le majeur lui-même, s'il est en capacité de le faire, mais c'est quand même assez limité. Oui. Vous avez la personne avec qui le majeur vit, un parent ou un allié, une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables. Alors ça, c'est à l'appréciation.
Du magistrat, j'imagine.
Une personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique, puisque les mesures de protection juridique, elles peuvent être mises en place, il va falloir désigner le tuteur ou le curateur. Ça peut être soit un membre de la famille, soit un tuteur professionnel. Donc des associations qui sont spécialisées dans le fait de gérer les situations de mise sous protection. Et un tiers, donc notamment par exemple le personnel hospitalier, si la personne est hospitalisée. Sur la mesure de tutelle, qui est la mesure la plus restrictive, qui limite le plus les droits, le majeur pourra, par exemple, continuer à voter, mais elle ne pourra pas disposer si elle a une maison dont elle est propriétaire, un appartement, si elle a des biens, elle ne peut plus les vendre. C'est le tuteur qui doit le mettre en place. Et sur ce type de mesure, le tribunal exerce un contrôle sur chaque acte qui sera fait par le tuteur. Pour lancer la procédure, il faut un certificat médical.
D'accord.
Enfin, il en faut deux d'ailleurs. Il faudra que la personne soit vue par un médecin expert auprès de la cour d'appel, donc enregistré sur une liste spécifique. Entendu, si c'est possible, par le juge des tutelles, mais il y a très souvent des dispenses, parce qu'en fonction des pathologies, ils ne peuvent pas se présenter. Et le juge des tutelles rendra une décision fixant la mesure qui lui semblera la plus adaptée entre eux, donc de la sauvegarde de justice qui est le plus léger à la tutelle. Et ensuite, chaque acte devra être validé par le juge, même s'il est effectué par le tuteur.
Donc c'est des mesures très contrôlées, pas faciles à mettre en place, j'imagine. Donc ça dépend de la santé physique et mentale, j'imagine, de celui à protéger. Ça dépend de... Enfin, y a beaucoup de choses à apprécier. C'est quand même pas une mesure... anecdotique, quoi. Enfin,
c'est pas anecdotique. Du coup, c'est très contraignant, même pour le tuteur. Hein. C'est-à-dire qu'il doit rendre des comptes, il doit. Mais effectivement, ça protège la personne qui en bénéficie, parce que ça peut la. Enfin, on voit de temps en temps. Enfin, ça, il peut arriver de recevoir des gens qui se rendent compte qu'une personne âgée qui souffre de déficience mentale liée à son âge a pu, par exemple, donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui s'est présenté avec des arguments qui sont qui sont pas dans son intérêt, et aller contre cette personne et récupérer son argent. Et on va avoir ensuite des procédures d'abus de faiblesse, alors que quand il y a une protection, la personne n'a plus accès à ses comptes, ne peut plus rien faire sans l'aval du tuteur, et ça permet de la protéger. Donc c'est vraiment des procédures qu'il faut quand même pouvoir mettre en place dès qu'on sent que c'est nécessaire, parce que ça protège vraiment la personne.
Oui, en amont, dès qu'on a des doutes sur la faculté d'une personne personne à se gérer elle-même. Faut pas hésiter à se rapprocher d'un avocat éventuellement pour connaître la procédure.
Exactement. Effectivement, parce qu'après, il y a plusieurs choses à mettre en place avant de saisir le juge. Donc effectivement, l'avocat est important parce qu'il connaît et il va être ensuite l'intermédiaire d'ailleurs avec le juge notamment, parce que on peut faire évoluer une mesure, parce que l'état de santé après change. Donc on peut faire évoluer en cours de mesure. On peut interroger le juge quand il y a des besoins spécifiques et que le tuteur ne sait pas forcément, parce que quand c'est, vous savez, vous avez par exemple là, c'était la cousine, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être qui en fait pensent qu'ils vont réussir à gérer, et puis finalement à chaque acte il faut demander au juge, et c'est compliqué d'être tuteur quand on n'est pas professionnel, même si on a envie de protéger la personne à laquelle on tient, ça reste quand même une mission qui est difficile. Donc c'est vrai que l'avocat aux côtés de cette personne permet quand même de l'accompagner, d'être l'intermédiaire avec le juge, de pouvoir intervenir et voilà, ça permet de protéger la personne qui en a besoin.
Et donc il y a des organismes dont c'est le métier aussi, hein, parce qu'on se dit souvent on va gérer ça en famille, et puis c'est pas, comme vous l'avez rappelé, ça peut être lourd à gérer, c'est un métier, enfin ça demande du temps, de la disponibilité. Bon, merci pour toutes ces précisions, et puis j'en profite parce que vous l'avez souligné à juste titre que on peut aller voir aussi des avocats en amont. C'est on a toujours le réflexe de les appeler quand ça va très mal ou que c'est déjà trop tard, mais les avocats peuvent aussi conseiller, anticiper, protéger, vous rappeler vos droits ou vous faire connaître vos droits. Donc merci Laetitia pour votre expertise sur ces matières techniques. Je m'adresse maintenant à Maître Aurélie Tolade. Bonjour, rebonjour Aurélie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je précise tout de suite que vous êtes spécialisée en droit de la famille. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire quand un avocat est spécialisé en droit de la famille ?
Effectivement, il faut faire une distinction entre la spécialisation et les activités dominantes. Parce que la spécialisation, c'est, on obtient un certificat de spécialisation. On a une reconnaissance supplémentaire dans la matière, effectivement, pour laquelle on a passé ce certificat de spécialisation. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. En fait, ça correspond à une validation des compétences dans le domaine dans lequel, effectivement, on demande ce certificat de spécialisation. Sur les 4 dernières années, donc on doit justifier des actes qu'on a rédigés, de l'ensemble des procédures qu'on a menées dans le cadre d'un dossier sur ces 4 dernières années, en expliquant la pratique, on monte tout ce petit dossier qu'on dépose, et ensuite quand le dossier est complet, on nous reçoit en entretien dans une école d'avocats, peu importe où en France. Donc moi je me suis retrouvée à Lyon pour passer certificat de spécialisation, et dans le cadre de cet entretien, eh ben, on vous questionne sur votre pratique, on vous questionne sur vos compétences pour vérifier qu'effectivement elles correspondent bien aux standards du certificat de spécialisation pour pouvoir l'obtenir. Et le jury est composé de 2 avocats, un magistrat et un universitaire. Donc autant vous dire que c'est une véritable épreuve.
Ça doit être éprouvant comme examen.
C'est ça.
Et donc vous êtes donc spécialisée en droit de la famille. Vous avez pratiqué donc cette matière. Alors à l'époque vous étiez collaboratrice. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu votre parcours comme vos autres consoeurs?
Oui, effectivement. Alors moi j'ai un parcours universitaire où j'étais à Nanterre. J'ai eu un master 2 en droit privé général, un petit peu comme ma consoeur Gernaise. Et ensuite je suis tout de suite venue sur le Val d'Oise dans un premier cabinet généraliste, un gros cabinet de Pontoise, où je suis restée 5 ans, et ensuite effectivement j'ai intégré un nouveau cabinet toujours dans Pontoise dans lequel j'ai pris directement le pôle de droit de la famille, donc pendant lequel j'ai exercé durant mes 7 dernières années avant effectivement de me lancer à créer mon propre cabinet avec mon associé.
Ah, c'est une création récente alors.
Tout à fait.
Sur Pontoise, sauf erreur de ma part.
Exactement.
Très bien. Alors, merci pour toutes ces précisions, parce que c'est important effectivement de savoir que tous les avocats ne sont pas spécialisés. Sur le barreau du Val d'Oise, il y a certains avocats qui ont des spécialités en droit de la famille, en droit public, en droit routier, voilà. Et il y a des autres avocats qui ont des activités dominantes. Et c'est important de bien connaître le champ d'intervention et le périmètre d'intervention de son avocat. Et on y reviendra tout à l'heure pour préciser comment avoir accès à ces informations. Alors, nous avons reçu une première question d'un auditeur qui nous demande il nous demande rien du tout. Il nous dit « Je souhaite changer de nom de famille. Quelle procédure dois-je engager ?»
Alors, il aurait pu être un tout petit peu plus précis pour savoir effectivement quel nom il voulait obtenir.
Parce que c'est important.
Exactement, parce qu'il y a deux procédures. Il y a la première procédure qui est la plus simple depuis la loi de 2022, c'est un changement de nom par une procédure simplifiée. Ça permet simplement de porter le nom d'un des deux parents qui n'a pas transmis le sien. Imaginons, à la naissance, le père déclare l'enfant avec son nom et l'enfant ne porte pas le nom de la mère. Eh ben ça, cette procédure permet effectivement, quand on est majeur, de pouvoir prendre le nom de sa mère une fois dans sa vie, alors en la collant, en le remplaçant par le nom du père existant, et de pouvoir effectivement avoir recours à cette procédure. Elle est gratuite, elle est extrêmement rapide, puisque vous avez simplement besoin d'aller dans une mairie, dans la mairie de votre lieu de résidence, et si jamais vous vivez à l'étranger, dans la mairie de votre commune de naissance, pour procéder à cette démarche-là.
Il faut avoir, 18 ans, c'est ça?
Alors, on y reviendra pour les mineurs,
ça m'intéresse beaucoup. Je prêche pour ma paroisse là aussi, mes enfants ne portent pas mon nom de famille et je voudrais y remédier. Donc ça arrive alors, cette réponse.
Ouais, on y reviendra là, effectivement. Je parlais plutôt du M majeur parce que si notre auditeur nous a appelé, on était plutôt sur cette catégorie-là.
C'est exact.
Mais effectivement, ça permet de choisir. En fait, vous pouvez choisir un nom de naissance qui figure sur votre acte de naissance. Imaginons aussi, par exemple, que votre mère porte deux noms, un nom composé. Ça permet de choisir un nom qui figure sur ce certificat-là.
D'accord.
Donc, on l'a dit, ça se fait à la mairie. Si jamais vous avez une mairie un peu récalcitrante avec un officier d'état civil qui n'est pas forcément d'accord ou qui traîne un petit peu les pieds, vous avez toujours la possibilité d'avoir recours au procureur de la République, d'accord, qui gère aussi effectivement ce genre de choses. Et donc, du coup, il suffit effectivement de lui écrire. Comme à l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un demande ce changement de nom et que l'officier d'état civil n'est pas d'accord avec ce changement de nom, il peut en référer au procureur de la République qui lui prendra la décision de savoir s'il octroie ou pas ce changement de nom. Et s'il ne l'octroie pas, il y a toujours des recours possibles. C'est expliqué dans le courrier sur lequel il refuse ce changement de nom. La deuxième possibilité de changement de nom, c'est par décret, pour un motif légitime. Parce que, par exemple, vous avez un nom qui est difficile à porter, donc vous pouvez faire effectivement cette demande. Il faut bien expliciter les raisons de cette demande. Par exemple, ça peut être un nom difficile à porter parce qu'il est ridicule ou péjoratif. On a tous connu dans les cours d'école des noms un petit peu parfois difficiles à porter. Ça peut être aussi un nom qui a été rendu célèbre dans les médias ou porteur d'une mauvaise réputation, comme certaines affaires judiciaires qu'on a tous effectivement connues. Ça peut aussi être pour éviter l'extinction d'un nom de famille, parce qu'on sait qu'il n'y a plus beaucoup de personnes portant ce nom-là. Enfin, ça peut être aussi parce que, pour des raisons X ou Y, les différents frères et sœurs de la famille ne portent pas le même nom. Et du coup, ça peut permettre effectivement de remettre les choses dans l'ordre. Là, les démarches sont beaucoup plus complexes. Complexes et payantes par rapport à la
précédente. Ah oui, voilà, j'allais poser la question, qui est gratuite, d'accord.
Qui était complètement gratuite. Là, vous faites effectivement une demande auprès du ministère de la Justice. Cette démarche, elle est payante pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'étapes. C'est-à-dire que, par exemple, votre demande, elle doit être au préalable publiée dans un journal officiel du Journal de la République française. Donc ça, c'est un coût qui est pas négligeable. Ensuite, effectivement, il faut envoyer tout un dossier avec des pièces justificatives et notamment son extrait d'acte de naissance, son casier judiciaire, etc., au ministère de la Justice. Et on est surtout sur des procédures qui durent des mois, voire des années. Donc il faut vraiment pas être pressé pour obtenir le changement de nom à ce moment-là. Pour effectivement en revenir au cas des mineurs tout à l'heure, pour les mineurs, effectivement, si les deux parents sont d'accord, il n'y a pas de difficulté. On peut tout à fait adjoindre le nom de famille d'un des deux parents qui n'aurait pas donné son nom. Et en cas de enfin, si un mineur a plus de 13 ans, il faut obtenir son consentement. C'est obligatoire. Après, ce qui se fait aussi beaucoup dans nos procédures en droit de la famille, c'est pour faciliter la vie quotidienne. Là, on n'est pas sur un changement de nom, on est sur l'adjonction d'un nom d'usage, comme par exemple pour la femme mariée. On peut très bien adjoindre un nom d'usage à un enfant pour que sur sa pièce d'identité, par exemple, figurent finalement les deux noms pour faciliter les démarches quotidiennes, les départs en vacances, voilà, tout ça. Mais là, on ne change pas l'état civil de l'enfant. C'est simplement, effectivement, on l'autorise à porter aussi un autre nom que celui qui figure sur son acte d'état civil.
Merci pour toutes ces précisions. Je remercie d'ailleurs l'auditeur pour sa question qui me permet d'y voir un peu plus clair sur mes propres droits. Je vous remercie, Maître Tolade. Je vous propose de faire une nouvelle pause avant de vous retrouver sur l'émission Tous les droits. À tout de suite. Droits sur IDFM Radio, aujourd'hui consacré aux droits de la famille, avec toujours à mes côtés Maître Deradji, Maître Gernèse et Maître Tolade, toutes avocates au barreau du Val-d'Oise. Alors Maître Tolade, une dernière question pour vous, concernant cette fois la résidence des enfants mineurs en cas de séparation hors mariage. Parce qu'il y a des gens mariés, des gens qui ne sont pas mariés, et là notre auditrice manifestement n'est pas mariée et elle nous écrit... En nous expliquant que voilà, je suis séparée de mon compagnon. Nos enfants ont 5 ans, 13 ans et 16 ans. Nous ne nous accordons pas sur les modalités de leur garde. Quels sont mes recours ?
Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'accordent pas. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec ma consoeur Gernaise, aujourd'hui, la première démarche, surtout dans cette matière-là qui est la matière familiale, parce qu'on touche vraiment au cœur des familles, il est vraiment important de tout tenter déjà amiablement pour trouver des accords. Même si c'est des accords parfois qui peuvent être partiels, mais au moins d'essayer de dialoguer pour avancer dans ces accords. On a vu, on peut passer par une médiation, on peut passer par des rendez-vous communs aussi. Moi, je le fais beaucoup au cabinet. Une fois qu'on a écrit, par exemple, à la partie adverse, en disant qu'on était le conseil, eh ben, on essaye d'avancer avec un confrère qui se manifeste et on se fait un rendez-vous tous les quatre pour pouvoir mettre les choses à plat sur les ressentis de chacun, sur les demandes de chacun. Et parfois, on se rend compte que finalement, le fait qu'il y ait l'intervention des avocats, donc de tiers à leur conflit, ça permet d'apaiser les choses et de trouver des solutions. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans notre époque actuelle, c'est vraiment important. Parce que surtout quand cette matière familiale, quand on a des enfants comme notre auditrice de 5 et 13 ans, ils ont toute leur vie encore à faire avec, à communiquer avec l'autre parent. Donc c'est vraiment essentiel. Donc si vraiment cette procédure amiable n'a pas abouti, on va devoir recourir effectivement au juge pour fixer les droits relatifs aux enfants. Alors quand on entend droits relatifs aux enfants, j'écarte un petit peu du débat, mais il y a un peu plus que la résidence. D'abord, il y a l'autorité parentale, c'est-à-dire l'ensemble des droits et des devoirs de chacun des parents. Et la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, elle est conjointe, cette autorité parentale. Ça veut dire que chacun doit respecter la place de l'autre parent en le tenant informé des décisions à prendre, en le tenant informé de la situation de l'enfant. Même si parfois, il peut y avoir un parent qui peut être éloigné géographiquement. Le papa vit dans le sud de la France, la maman dans la région parisienne, c'est elle qui gère le quotidien des enfants, mais pour autant, les deux parents ont l'autorité parentale. Donc le papa doit être informé de toutes les démarches relatives aux enfants. Se pose ensuite effectivement la question, la fameuse question, on entend beaucoup de garde exclusive, de résidence. La notion de garde n'existe pas juridiquement, c'est la notion de résidence qu'il faut entendre. C'est-à-dire que les enfants doivent avoir leur résidence chez l'un ou l'autre des parents, voire chez les deux. On est dans une société où aujourd'hui, les papas et les mamans ont le même type de droit. Auparavant, on pouvait penser qu'effectivement, la résidence était plutôt chez la maman et pas chez le papa. Aujourd'hui, on a vraiment des juridictions, mes consoeurs valideront peut-être, mais surtout à Pontoise, on est vraiment sur une proaction sur la résidence alternée, dire qu'effectivement, quand c'est possible, c'est des choses qui sont mises en place quand les conditions sont réunies. Parce qu'effectivement, on estime que c'est de permettre aux enfants d'avoir chacun des moments de qualité avec l'un des deux parents. Si effectivement cette résidence alternée n'est pas possible, et ben alors on va devoir fixer la résidence chez l'un ou l'autre des parents, et dans ces cas-là, à donner des droits de visite et d'hébergement aux parents qui n'ont pas la résidence. C'est pareil, là c'est vrai que l'intérêt d'avoir recours à un avocat, parce que sur cette procédure-là, quand on est hors mariage, l'avocat n'est pas obligatoire. Donc le simple particulier peut très bien saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête et il aura une convocation pour se présenter à l'audience. L'avantage aussi d'avoir recours à un avocat, c'est que nous, on va pouvoir tout border. On va pouvoir aborder tout aussi les possibilités. On entend beaucoup, moi j'ai des droits de visite classiques, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mais ça c'est du classique pour, effectivement, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais tout est adaptable. Si on a un papa, par exemple, qui n'a pas la résidence et qui est très disponible le mercredi, on peut très bien prévoir d'étendre les droits sur le mercredi pour qu'il passe du temps de qualité avec ses enfants. Et là, c'est aussi notre rôle, nous, professionnels, de pouvoir apporter notre expertise et de dire, bah, au vu de votre situation professionnelle, au vu de votre investissement avec les enfants, on peut prévoir d'autres modalités que les droits classiques, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. La question qu'on peut se poser, alors effectivement, qui choisit cette résidence? Quand il n'y a pas d'accord, bah, on estime que ce n'est pas les parents, donc c'est le juge. Le juge, on l'a vu, on peut le saisir par voie de requête, donc soit effectivement directement le particulier fait sa demande au tribunal, soit par l'intermédiaire d'un avocat. Et dans ces cas-là, effectivement, l'avocat fera par voie de requête ou d'assignation, peu importe, et il saisira le juge. On recevra une convocation à une audience pour laquelle effectivement les parties seront reçues. Pour l'autre, avec ou sans avocat, hein, on peut très bien avoir un seul avocat ou un avocat par partie. Et le juge entend les parties lors de cette audience et fixe ensuite une date de délibéré à laquelle il rendra sa décision, parce qu'il ne décide jamais le jour de l'audience. Il faut qu'il ait le temps de regarder effectivement l'ensemble des pièces du dossier pour prendre sa décision. Aujourd'hui, on donne effectivement aussi une place importante à l'enfant et à sa parole. Et je pense que c'est bien de préciser aussi à nos éditeurs que un enfant ne décide pas chez qui il va vivre. Un enfant, c'est pas lui qui va déterminer s'il veut vivre chez son papa ou chez sa maman. Éventuellement, il peut donner un avis, émettre un souhait, notamment dans le cadre d'une audition. Ils peuvent parfois demander à être entendus par un juge, à vouloir parler au magistrat pour expliquer un petit peu la situation. Comment ça se passe chez papa? Comment ça se passe chez maman? Pourquoi est-ce que je veux plus aller chez l'un ou chez l'autre? Ou pourquoi je veux réduire les droits chez l'un ou chez l'autre? Et ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir ce retour-là. Mais il faut bien expliquer à l'enfant que c'est pas sa décision, c'est pas ses paroles qui vont déterminer chez qui va vivre. C'est un ensemble d'éléments, et je vais y revenir, qui va permettre au juge de dire, bah, finalement, l'intérêt de l'enfant, il est important de fixer la résidence chez la mère ou chez le père pour telle et telle raison. Donc, c'est vrai qu'il faut le rassurer, parce que parfois, des enfants qui sont auditionnés, alors, c'est plus forcément aujourd'hui par les magistrats, c'est par des associations, mais c'est quand même stressant, c'est quand même angoissant de se retrouver effectivement au tribunal quand ils sont petits. Donc c'est vrai que c'est important. On est aussi, et c'est là où l'amiable a toujours un intérêt, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des délais qui sont importants. Nous, à Pontoise, on est quand même sur entre 6 à 8 mois de délai. Dans certaines juridictions, j'étais à Melun il n'y a pas très longtemps, c'est encore plus longtemps. Voilà, il y a vraiment un intérêt. Si on trouve un accord, cet accord, il peut être entériné rapidement. Alors que sinon, vous allez attendre 8 mois pour avoir une décision d'un juge qui potentiellement pourra aussi déplaire à l'un comme à l'autre, parce que le juge, il va trancher. Oui. Et cette décision, finalement...
Il ne faut pas l'oublier, ça.
Ouais,
il faut toujours un qui est oui. moins content
même,
que l'autre.
Parfois même les deux peuvent avoir des solutions qui ne leur conviennent pas forcément entièrement. Donc ça, effectivement, c'est le cas de la résidence. Alors, sur quels critères le juge fixe-t-il la résidence des enfants? Ça peut être sur la pratique ou un accord antérieur des parties, c'est-à-dire depuis qu'ils sont séparés, les enfants sont restés vivre avec la maman, le papa n'a pas forcément demandé avant à les avoir plus, et aujourd'hui il les veut plus, donc ça va être sur ces modalités-là, ça va être, donc on l'a dit, sur le sentiment de l'enfant qui peut éventuellement émettre lors d'une audition. Ça va être aussi, et c'est important de le dire, sur la capacité de chacun des parents à assurer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre. Et ça, c'est important parce que un parent qui ne respecte pas la place de l'autre parent, notamment par exemple en l'empêchant de voir les enfants, en l'empêchant d'avoir un contact régulier, ça peut être aussi un motif de sanction du juge en disant que ce parent-là n'est pas digne, effectivement, de pouvoir avoir la résidence, parce que sinon on estime que l'autre parent n'aura plus sa place ou la place qui lui convient. Ça peut être aussi le cas, le résultat d'expertises effectuées, d'enquêtes sociales, d'enquêtes médico-psychologiques qui permettent d'apporter un peu plus d'éléments sur la situation de vie de chacune des parties, sur les enfants, comment les enfants évoluent au sein de l'un et de l'autre domicile. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue dans un dossier, au moment de la séparation, finalement, les deux parents ont les mêmes droits. Et ça, parfois, on l'oublie. Oui. On a tendance à l'oublier, effectivement. Et c'est pas parce que les enfants, finalement, sont restés vivre avec la maman et que le papa est parti, ou qu'ils sont restés vivre avec le papa et que la maman est partie, que c'est lui qui a la garde et qu'on décide de tout. C'est pas du tout le cas. Chacun a des droits et chacun a le droit d'entretenir, effectivement, des relations avec ses enfants. Le dernier point, parfois, qui est aussi source de difficultés entre les parents, c'est le point financier. Parfois, on dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais ça se justifie, effectivement, nous, on peut le voir dans nos procédures. Et c'est de savoir comment fixer cette pension alimentaire et comment la déterminer. Alors là, c'est vrai qu'il y a des barèmes. Le juge statue en fonction des revenus et des charges de chacun des parents. Et c'est des points qu'on plaide rarement, nous, aux audiences, parce que, on remet notre dossier avec les pièces sur la situation de l'un et de l'autre. Et le juge détermine la meilleure pension, effectivement, en fonction des besoins de l'enfant, en fonction de s'il a des pathologies médicales particulières, etc., etc. Mais c'est vrai que C'est un processus qui est long, le processus judiciaire. On l'a vu déjà dans le cadre des successions tout à l'heure. Et que finalement, bah, les parents sont les meilleurs acteurs de leur vie future avec les enfants. Donc autant que ce soit eux qui déterminent les modalités.
Merci pour toutes ces précisions. Alors, c'est vrai, on en a déjà discuté, mais le contexte de la séparation peut aussi expliquer que on considère qu'on n'a pas les mêmes droits que le papa ou la maman. Donc c'est vrai qu'il faut dépassionner. C'est très difficile dans ces matières-là, mais il faut dépassionner le débat. Et alors, je sais pas, anodin de saisir quand même le juge aux affaires familiales, le même hors divorce. Donc le recours à un avocat est une aide, à mon sens, précieuse pour connaître tous ses droits, pour appréhender tous les aspects de la séparation, parce que finalement, les parents, des fois, ont une vision un peu tronquée ou limitée des possibilités, des choses à organiser, parce qu'on pense pas toujours à tout quand on se sépare. Et ça me semble important de le rappeler aussi, les situations évoluent dans le temps.
C'est pour ça que ça, enfin, il n'y a pas de limite pour ressaisir le juge aux affaires familiales, c'est-à-dire que
saisir, voilà, plusieurs fois,
on peut le saisir
au cours
plusieurs
d'une
fois,
séparation d'une vie avec les enfants.
Tant que les enfants sont mineurs, parce que, enfin, après, il se posera simplement la question de la pension alimentaire, mais effectivement, il n'y a pas de délai. Il faut simplement justifier d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre de la précédente décision. Et à partir de là, vous pouvez ressaisir le juge avec les mêmes délais que précédemment. Avec la simple subtilité que nous, sur le Val d'Oise, on a un recours préalable à la tentative de médiation obligatoire.
D'accord.
Sinon, on ne peut pas ressaisir le juge. C'est une cause, effectivement, de rejet du dépôt d'une requête. Il faut tenter une médiation avant de ressaisir le juge une fois qu'on a déjà eu une décision de justice.
D'accord. Donc la médiation, là, est un préalable obligatoire. Ça c'est quand même, maintenant, aujourd'hui, un... Oui, Laetitia Jeannès veut intervenir. Oui,
sauf s'il y a des cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il peut sur des procédures urgentes, on peut y aller sans la médiation. Mais il faut justifier.
Oui,
faut
rassurer les auditeurs qui entendent des délais qui peuvent être effrayants.
Oui, parce que nous, on le sait, mais en fait, la médiation, elle n'est obligatoire que quand il faut faire modifier une décision préalable. Alors, classique, c'est pas le bon mot, mais s'il y a une situation de violence, s'il y a une situation nouvelle qui met les enfants en danger, là, on peut utiliser une procédure qui sans médiation préalable.
Et beaucoup plus rapide, du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes délais. Là, c'est vrai que tout ce qui est de l'urgence, les délais sont beaucoup plus rapides.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a certains moments de l'année où il y a peut-être des motifs d'urgence, les vacances, les rentrées scolaires, où il y a des enjeux aussi sur certains points qui n'auraient peut-être pas été...
Alors, les rentrées scolaires, c'est de moins en moins le cas, parce qu'ils estiment aussi que les parents doivent anticiper, dans quel... et se mettre d'accord au préalable, savoir dans quel établissement scolaire l'enfant va rentrer à la rentrée scolaire. Parce qu'on connaît la date de la rentrée scolaire, ça ne change pas tous les ans.
C'est exact.
Donc, mais en tout cas, effectivement, quand il y a des motifs de violence ou que ce soit dans le cadre d'ordonnances de protection, on peut saisir très très rapidement le juge et on a une date le jour même pour 3 jours après.
Merci Maître Autelade pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été les invités de Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai donc une fois par mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez donc connaître tous vos droits. Dans quelques minutes, la fin de notre émission, mais encore quelques renseignements si vous rencontrez une problématique en droit de la famille. Alors moi, j'ai la chance d'inviter des avocats parce que je les connais, puisque ce sont des confrères. Mais alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, comment trouver un avocat quand on n'en connaît pas? Est-ce que vous pouvez donner des pistes à nos auditeurs pour trouver un avocat, leur avocat en droit de la famille? Moi, je pense au bouche à oreille, parce que c'est quand même les premiers apports de clientèle. Et même quand vous avez des difficultés, voilà, dire à vos collègues, à vos amis, j'ai un problème en droit de la famille, est-ce que tu connais quelqu'un? C'est souvent comme ça que les clients vous sont adressés. Est-ce que vous avez d'autres idées pour...
L'annuaire de l'ordre des avocats, je pense que c'est un bon référentiel parce que vous avez les domaines d'activité, vous avez les certificats de spécialisation et au moins il n'y a pas de surprise parce qu'effectivement, vous savez que si vous cherchez un avocat spécialisé en droit immobilier, peut-être que dans un domaine très particulier, peut-être que l'avocat généraliste sera pas suffisamment compétent et dans ces cas-là, vous avez vraiment les mentions qui apparaissent sur ce site-là. Donc ça peut être un bon... un bon système.
Effectivement, l'Ordre des avocats dispose d'un site internet avec un annuaire où vous pouvez trouver le nom d'un avocat en fonction de la spécialité, du domaine de compétence, de son lieu, du lieu d'exercice, du lieu de son cabinet. Donc c'est une aide précieuse. Je pense aussi aux maisons de justice et du droit, où vous pouvez vous rendre et où on vous accueillera avec des coordonnées d'avocats ou des renvois vers le site de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Les tribunaux aussi. Alors il y a un tribunal pas loin là, à Montmorency, je sais qu'on peut s'y rendre, le tribunal judiciaire de Pontoise. Je précise aussi, parce qu'on l'a dit, hein, alors certains avocats sont généralistes. Ça existe, mais on peut pas être bon partout. Alors, très important de bien vous renseigner sur le domaine de compétences de l'avocat que vous allez rencontrer. Est-ce que vous avez d'autres messages à l'attention des auditeurs dans votre pratique ou... C'est une émission d'utilité publique, hein. Donc c'est aussi une tribune. Si vous avez des messages sur la fonction d'avocat, sur le droit de la famille, à quoi on doit penser quand on vit en couple. Ah oui, je m'envoie des messages. Par exemple, on dit qu'on va voir des avocats quand ça va mal, mais on peut aussi voir des avocats quand ça va bien, mais pour anticiper d'éventuels problèmes. Je pense à des couples non mariés, par exemple, qui peuvent consulter des avocats en droit de la famille pour connaître leurs droits en cas de séparation ou en cas de décès de l'un ou de l'autre.
C'est effectivement le cas et je pense que c'est un réflexe à avoir tant pour les avocats que pour les notaires et notamment quand on se paxe et qu'on veut acheter un bien ensemble, enfin quand on envisage d'acheter un bien ensemble, par exemple le pax est une bonne solution avec la rédaction derrière d'un testament.
Oui, parce que pax tout court, il paraît que c'est pas très utile, hein. Voilà, c'est un package.
Exactement, c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là et c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de se dire l'avocat comme le notaire, je peux le consulter en amont avant d'avoir des difficultés, justement pour préparer les choses et voir comment évoluer dans le temps avec la vie de couple qui évolue, un pax, un mariage, quel régime matrimonial adopter en cas de présence de biens, etc., etc. Et tout ça, ça se prépare.
Ça se prépare. Et donc, un petit mot peut-être aussi, parce que je pense que c'est une question que les auditeurs se posent, et on a mauvaise presse aussi. On dit toujours qu'un avocat, c'est très cher, donc on n'aime pas avoir affaire à eux. Vous intervenez, vous précisez aux auditeurs que vous pouvez intervenir, que vos tarifs sont connus, que vous communiquez là-dessus, que l'aide juridictionnelle est une possibilité aussi. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions là-dessus?
T'as tout dit. Non, effectivement, il y a quand on est éligible à l'aide juridictionnelle sur des barèmes qu'on peut trouver sur les sites internet correspondants, on peut effectivement ne pas avoir à payer un avocat. C'est-à-dire qu'en fonction de nos revenus, évidemment, l'avocat peut être gratuit. Et après, les honoraires sont faits. Mes consoeurs confirmeront, mais en fonction de la situation propre de chacun, où effectivement, on fait un point sur les revenus et sur les situations de nos clients pour faire des honoraires qui soient adaptés tant au travail qu'on va fournir évidemment, mais aussi à leur situation pour qu'ils n'aient pas au-dessus de leurs moyens, avec la possibilité en fonction de la situation de la personne de payer en plusieurs fois évidemment, et dès le départ ça fonctionne soit par forfait soit auto-horaire, mais il y a une visibilité.
Toujours.
Et toujours.
Vous signez des conventions d'honoraires avec des conditions générales de vente. Donc les honoraires sont encadrés, connus. Maître Deradji, vous vouliez réagir?
Oui, simplement pour ajouter que pour ma part, je travaille aussi avec les protections juridiques. Parce que les gens le savent pas toujours, mais parfois dans les contrats d'assurance, que ce soit contrat véhicule, assurance habitation, il y a des protections juridiques qui permettent de prendre en charge une partie ou tout des honoraires d'avocats. Et donc, il suffit de la déclencher et si elle fonctionne effectivement et que l'avocat est d'accord, ça permet d'avoir une prise en charge des honoraires et ça permet au justiciable de payer moins et voire même d'avoir l'intégralité des honoraires et des frais d'avocat et de justice pris en charge par sa protection juridique.
Merci à toutes les trois pour votre expertise, votre disponibilité, vos compétences, votre bonne humeur. C'est vraiment la fin de notre émission cette fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et excellente semaine.